c'est dur. On se disperse beaucoup. Quand on doit faire quelque chose, on commence la tâche. Et quand on ne l'a pas fini, alors qu'on doit la finir, on fait une autre tâche. Et après, on oublie la tâche, la première tâche qu'on a commencée. Quand on est petit, on se fait engueuler, mais enfin, c'est pas de notre faute, on le fait pas exprès. Et les personnes, elles pensent qu'on le fait exprès, mais en fait, pas du tout.
Notre attention est-elle en danger ?
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
Quatrième jour de reportage autour de cette question : notre attention est-elle en danger ? À l'heure des réseaux sociaux, des notifications tous azimuts, à l'heure où les développeurs d'applications visent clairement l'addiction des consommateurs, comment préserver notre capacité d'attention ? Pour mieux comprendre de quoi est faite cette attention, ce bien précieux qui attise les convoitises, nous donnerons la parole aujourd'hui à ceux qui en manquent, qui sont atteints d'un trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH touche 4% des adultes et entre 6 et 7% des enfants. Pour aider ces derniers, l'ASPEDA, une association de parents d'enfants touchés par ce trouble, vient de mettre sur pied un projet pilote à Lausanne. Durant 8 semaines, tous les mercredis après-midi, Monique Hinze, conseillère en stratégie d'apprentissage, encadre 6 enfants d'une dizaine d'années avec la collaboration de la présidente de l'association, Daniela Brustolin. Rendez-vous dans les locaux de l'ASPEDA à Lausanne. Voici Musculation cérébrale, un reportage de Francine Delcozo. Il est réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Alors, toi tu viens t'asseoir ici aujourd'hui. T'aimerais être derrière. On essaye de trouver une organisation dans la salle qui vous aide à vous concentrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on essaye comme ça. On regarde comment ça se passe à la fin. Puis on se redit comment on fait pour les autres fois. Je peux avoir tes yeux?
Oui.
Et puis tes oreilles? Est-ce que tu peux me redire ce que je t'ai dit ou tu aimerais que je répète?
On est là.
Oui.
Si ça va bien, ben la prochaine fois, je pourrai aller derrière.
Alors, j'ai pas dit que tu pourrais aller derrière la prochaine fois. J'ai dit qu'on regarderait et tu verrais qu'est-ce qu'on décide.
Ouais.
D'accord? Ça marche. D'abord les grandes. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait discuté comment faire pour améliorer votre concentration, qu'il y ait moins de bruit, parce que c'était pas très agréable. Et puis, vous aviez eu la bonne idée de dire qu'on allait faire une pause toutes les 30 minutes. Est-ce qu'on va avoir 3 pauses? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va avoir...
Ah non, 2.
D'accord. Pourquoi est-ce qu'on va avoir 2 pauses?
C'est divisé en 3, mais entre les 3, il y aura 2.
Excellent, bon calcul. Ce qu'on va faire, c'est juste que les objets que j'ai dans ma main, c'est une balle pour se détendre, et puis c'est une élastique avec laquelle... Ça a l'air pas mal, hein?
Du plastique, what?
Ouais, tu veux le tester?
Ouais.
Je vous les fais passer, what? Comme ça vous pouvez les tester.
On fait un peu un truc en plastique.
C'est un nouveau truc.
Puis quand tu le touches, bah, tu peux le déformer.
Et tu penses que si tu avais ça dans tes mains pendant que tu dois te concentrer, qu'est-ce qui se passerait?
Bah, ça m'aiderait.
Tu penses que ça t'aiderait?
Parce que quand j'ai un truc dans les mains, je suis mieux, plus attentif.
D'accord.
Je vous rappelle que la balle, on la garde pour soi, dans ses mains, pour se détendre, et pas pour la lancer aux autres et puis jouer à la balle.
J'ai une question.
Oui, dis-moi.
Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose en classe? J'ai souvent un stylo dans les mains.
Et tu préférerais ça parce que ça ne fait pas de bruit du coup?
Ouais.
Ouais. Et puis du coup, tu es quitte de casser tous les stylos?
Moi, je fais toujours ça.
Je peux avoir tes yeux et tes oreilles? Tu peux aller vers ton prof avec cet objet. Et puis tu lui dis, vous savez comment je fais d'habitude, que je fais trop de bruit avec mon stylo? Eh bien, j'ai trouvé une meilleure solution.
Mais vous l'avez acheté où?
Alors ça, c'est Daniela qui va nous dire.
Je ne l'ai pas acheté en Suisse, malheureusement.
Donc il faudra, non mais je vais regarder d'ici la semaine prochaine que je puisse en avoir un pour chacun.
Comme maintenant on va enchaîner avec la respiration. Merci d'aller vous asseoir.
Okay. Bien, si tu fais ça. Oui, j'ai dépassé.
Est-ce qu'il y en a qui aimeraient être assis par terre pour faire la respiration?
Oui, moi je suis souple, j'aime trop les appuyer, moi. C'est la vie.
Alors je vais mettre la respiration en route, ok?
Ok, nice.
Assis-toi confortablement, mets le dos bien droit, les mains croisées ou posées sur tes genoux, et respire normalement tout en faisant bien attention à ce que tu fais, en comptant lentement. 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire.
Nous, ce qu'on a vu, est-ce que tu peux juste, une petite seconde, merci, ne pas le toucher. Nous, ce qu'on a vu et qu'on a trouvé magnifique, c'est que vous avez fait des progrès incroyables. Et vous avez réussi à rentrer dans l'exercice beaucoup plus longtemps et plus facilement que les autres fois. Alors aujourd'hui, on va s'occuper des techniques pour mémoriser du vocabulaire. On va faire une liste de toutes les techniques que vous connaissez pour mémoriser un mot. Ouais. Merci. Est-ce que tu peux t'asseoir avec la chaise en face de moi? Super. Et puis toi, en face de moi aussi, sur la chaise.
T'as une technique, toi, me semble-t-il, non?
Ouais. Dans moi, je le regarde. Et ma mère aussi, elle m'a dit, on peut aussi faire, s'inventer genre une petite histoire, s'il y a des difficultés. Comme ça, j'arrive à me souvenir des difficultés avec des petites histoires.
Se raconter une histoire avec les difficultés du mot.
Ouais.
Ouais. Par exemple, si on prend le mot éléphant.
Ouais.
Tu lui donnes le stylo, comme ça, elle peut l'écrire.
Ouais.
Tu me dis comment tu l'as écrit, Camille?
E-L-E-F-F-A-N-T. Pour les F, bah, la boucle des F, c'est un peu comme les oreilles des éléphants.
Ah, bah,
du coup, il y en a deux oreilles d'éléphant.
Pour toi, éléphant, c'est avec deux F, et puis les deux F, c'est les deux oreilles de l'éléphant.
Ouais.
D'accord. Est-ce que quelqu'un écrirait le mot éléphant autrement? Tu n'es pas sûr pour l'accent. Oui, on termine juste le mot éléphant, d'accord? Puis on fait la pause. Merci, Luca, de nous rappeler que c'est l'heure de la pause. C'est pas comme ça. Ah, tu le mettrais dans l'autre sens? Tu sais pas? T'as un doute. Ok. On fait une pause et puis on résoudra le problème de l'éléphant tout à l'heure.
À Genève, aux hôpitaux universitaires, j'ai rendez-vous avec le docteur Nader Perrault. Vous êtes spécialiste du trouble du déficit de l'attention. Est-ce que le nombre de personnes touchées par ce trouble augmente? Est-ce qu'on voit cette augmentation?
Il n'y a pas d'augmentation. Hein. 4% de la population, si on fait une analyse fine, c'est quelque chose qui est probablement très ancien et ça n'a pas tellement changé. On a une prévalence en population générale du TDAH adulte d'environ 4% et c'est probablement comme ça depuis très 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 longtemps. Sauf que, en fonction du contexte dans lequel je vais évoluer, ça va être plus ou moins handicapant. Si j'ai pas beaucoup de tâches scolaires à faire et puis que mon principal objectif dans la vie, alors c'est pas pour stigmatiser, mais si c'est par exemple m'occuper d'un champ et puis cueillir des patates et puis que j'ai pas à lire et puis à faire des impôts puis à faire des factures toute la journée, je vais pouvoir plus ou moins jongler avec ma difficulté attentionnelle. Ça va quand même être compliqué pour moi de revendre mes patates sur un marché, de planifier, d'organiser, etc. Mais je m'en sortirai plus ou moins. C'est pas dire que le trouble est pas là. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre en place des stratégies adaptatives. Si je commence à vivre dans une société dont 80% des exigences qui me sont demandées sont administratives, rébarbatives, ennuyeuses, se lever tous les matins à la même heure, aller au boulot, et au boulot on me redemande des trucs administratifs, etc., etc., pour quelqu'un qui a un déficit d'attention, ça va être la catastrophe.
On dit souvent que les personnes qui souffrent du trouble du déficit d'attention sont des personnes sensibles. Est-ce que ces personnes nous alertent sur un environnement qui est pour tout le monde beaucoup trop stimulant? Est-ce que ce sont des siffleurs d'alerte?
Alors, je pourrais dire que oui, hein, dans le sens qu'on est probablement dans une société où ces gens-là vont être très vite mis à mal. On va très vite solliciter leur capacité attentionnelle qui est déjà fragile. Ce n'est pas exclu qu'ils mettent en lumière le fait qu'on est dans une société qui demande peut-être trop en termes de planification, d'organisation, d'exigence attentionnelle. Il faut toujours être au taquet. Et ce n'est pas exclu que ces gens-là, dans un monde comme celui dans lequel on vit actuellement, soient en difficulté, mais que ce ne soient pas les seuls. Et que peut-être c'est les premiers en difficulté et qu'il y aura d'autres qui vont suivre après qui n'auront pas un TDAH forcément. Donc ma réponse serait en tout cas soyons attentifs à ça. Et nous on oublie que pour eux, ce que l'on demande maintenant à l'école ou ce qu'on demande dans la vie de tous les jours, c'est vraiment à l'antipode de leur fonctionnement.
Le TDAH, on glisse sur ces mots-là, mais c'est bien le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Ouais, alors le TDAH, ça, c'est une abréviation pour trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, voulant dire qu'on peut avoir des difficultés attentionnelles ou de l'hyperactivité, puis souvent chez l'adulte les deux.
Est-ce que le nombre d'enfants qui souffrent du trouble du déficit de l'attention est plus important que celui des adultes?
Alors oui, la prévalence est plus importante chez l'enfant que chez l'adulte. On a une partie des enfants qui vont voir le trouble s'amender, voire disparaître vers l'adolescence ou l'âge adulte. Pourquoi est-ce que ça persiste chez certains puis ça disparaît chez d'autres? Il semblerait qu'un des facteurs le plus important, c'est l'environnement familial dans lequel les enfants vont grandir. Des études récentes montrent que si on a une psychoéducation des parents et qu'ils sont conscients que l'enfant a un TDAH et qu'ils mettent en place des aménagements à la maison pour être attentifs, passer du temps avec l'enfant, le valider sur les efforts qu'il fait au lieu de l'engueuler puis lui dire « tu te concentres pas et fais un effort, c'est pourtant vachement simple ce que tu as à apprendre », mais si on fait cette psychoéducation relativement simple, il semblerait que ce soit associé à une disparition du trouble. On a grosso modo 60% de persistance du trouble à l'âge adulte. Donc la prévalence est plus importante dans l'enfance. Elle est autour de 6-7%, alors que chez l'adulte, c'est 4%.
J'arrive chez Valérie Milesisterque, docteur en psychologie. Elle reçoit ce matin une patiente, une jeune femme qui souffre du trouble du déficit de l'attention. Valérie Milesisterque, en deux mots, le neurofeedback, c'est quoi?
En deux mots, c'est compliqué. Voilà, vous avez encore une autre question. Le neurofeedback, c'est un outil pour apprendre à réguler le fonctionnement de son cerveau. Tout à l'heure, je vais vous montrer au cours de la séance avec la patiente comment est-ce que concrètement la personne peut voir le feedback de son propre cerveau en activité dans une tâche qui est agréable comme tâche, vu que c'est regarder une série.
Ça va? Comme ça, c'est tout bon?
Oui.
Alors, on va lancer l'entraînement. Donc, on va prendre une série comme récompense, donc notre carotte. C'est la série. Quand la série tourne, ça veut dire que tout est bien. Et quand ça s'arrête, c'est que le cerveau, il doit trouver une solution pour fonctionner au bon rythme. Donc je vérifie aussi en parallèle que mon électrode soit bien posée. Et c'est tout bon. Et devant ma patiente, il y a un écran télévision avec la série qui s'affiche au milieu et des jauges qui indiquent certaines vitesses. Dans son cas, on va faire en sorte de diminuer les basses fréquences qui sont représentées dans une jauge avec une couleur bleue. Et elle doit encore diminuer les très hautes fréquences qui sont associées au stress. Donc elle doit contrôler tout ça, elle a tous ces signaux devant elle. Et quand il y a une interruption, comme maintenant, elle peut voir qu'est-ce qui a généré cette interruption-là. Et puis pour le choix de la vidéo, on a pris une vidéo en anglais parce qu'elle est très douée dans les langues et qu'on a besoin d'une tâche qui l'engage pour qu'on puisse être en contexte d'apprentissage. Donc on va demander au cerveau de s'adapter aux règles qu'on a décidées d'entraînement. Typiquement pour les troubles de l'attention, s'il y a un problème de soi de trop haute fréquence liée à de l'anxiété ou du stress, ou alors, chez beaucoup aussi, il y a trop de basse fréquence. Donc quand on demande au cerveau de se concentrer, de se focaliser sur une tâche, il fait pile l'inverse. Il va directement aux abonnés absents, parce que ben, il y a aussi un effet d'apprentissage. Très vite, un enfant qui a des troubles de l'attention, on lui dit « t'y arrives pas ». Donc le cerveau, il apprend très vite, surtout chez les enfants. Donc très vite, il sait que si on lui demande de faire quelque chose, ben, de toute façon, ça sert à rien. Et il ne fait plus l'effort qu'il a besoin de faire pour pouvoir réaliser sa tâche.
Et ça, ça s'indique par des couleurs sur l'écran. Vous voyez le stress qui monte, l'attention. On mesure vraiment l'attention?
Alors, l'attention, il n'a pas de mesure électroencéphalographique qui est arrêtée dans le temps. C'est tellement multifactoriel. Un cerveau qui se ralentit, ben, ce qu'on va voir typiquement, c'est effectivement le cerveau qui commence à produire des très basses fréquences. Donc on va lui réapprendre, lui redire, ben voilà, maintenant, là, mon coco, j'aimerais que tu sois plus haut. Et puis, on va le récompenser là-dessus. Puis notre cerveau, il n'aime pas les interruptions. Donc c'est pas seulement la motivation de continuer la suite de notre série préférée, mais c'est aussi le fait que notre cerveau, il aime savoir ce qui va venir après. Il aime prédire. Donc il va trouver un moyen de s'adapter. Et on joue là-dessus. On apprend à s'adapter. On fait vraiment de l'exercice. Comme on ferait de la musculation pour aller se renforcer musculairement, ici, on va essayer de muscler le cerveau dans la capacité à réguler en fait sa vitesse de fonctionnement. Donc maintenant, je vais libérer ma patiente, je vais nettoyer, je vais enlever les électrodes puis nettoyer sa tête. Comment c'était cet entraînement?
C'était difficile.
C'était difficile.
Mmh. Oui, car j'étais stressée. Par contre, ça motive parce que quand vous mettez la série, que j'aime bien justement, quand il y a les arrêts sur image, ça motive encore plus pour on veut savoir la suite. Du coup, on fait l'exercice 10 fois mieux. On peut aussi voir si on a progressé ou pas. Parce que s'il n'y a plus beaucoup d'arrêts sur image, ça veut dire qu'on fait l'exercice juste, justement. Je trouve que c'est motivant.
Et qu'est-ce que vous faites pendant la séance pour que votre cerveau reste attentif et ne passe pas soit en trop haute fréquence, soit en trop basse fréquence?
J'essaie de me concentrer avec mon cerveau, mais surtout avec le ventre, pour faire des bonnes respirations. Et à me concentrer sur ce que les personnages de la série disent. et quand je me perds, je lis les sous-titres. Mais surtout, le neurofeedback, ça m'a aussi beaucoup aidée en dehors des séances. Comme par exemple, quand je suis stressée ou je suis anxieuse. Et j'ai énormément de travail à faire avant de commencer mes tâches. Je fais des respirations ou avant de m'endormir.
Ce qui me surprend, moi, c'est que finalement, on arrive à avoir accès à ces fréquences et à les moduler.
Oui, alors ça, en fait, le neurofeedback, les bases, ça date des années 60 déjà, où ils ont fait des expériences sur les chats. Et ils se sont rendus compte que les chats arrivaient à moduler leur signal électrique cortical avec des récompenses. Donc du cerveau, tout à fait. Et ça a été plus tard testé sur l'être humain. Et on s'est rendu compte aussi que l'être humain arrivait très bien et on pouvait en bénéficier. Notamment, très tôt, ils ont commencé sur les troubles de l'attention et aussi sur les troubles liés à l'épilepsie pour diminuer la fréquence et l'intensité des crises.
Est-ce que le neurofeedback est un complément ou une alternative à la médication? Est-ce que vous prenez, vous, de la Ritaline en plus du neurofeedback?
Oui, j'en prends depuis l'âge de 6 ans.
Et vous avez aujourd'hui
20.
Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez des différences lorsque vous prenez le médicament comme la Ritaline?
Oui, on est plus soi-même. Pour ma part, j'ai une autre personnalité.
C'est-à-dire?
J'ai moins envie de parler et de rigoler. Je me renferme dans ma bulle, plus sérieuse. C'est comme si je tirais la gueule. Oui, c'est pas... Et ça, c'est pour ça que ça me plaît pas tellement de prendre ce médicament. Mais ça m'aide quand même beaucoup pour les devoirs. Par contre, c'est pas parce qu'on prend ce médicament que nos notes vont augmenter. Enfin, on va avoir des bons résultats, il faut bosser.
On pourrait se dire qu'avec la Ritaline, on peut faire des envieux. Si je prends de la Ritaline, je vais mieux réussir mes examens.
Ça, c'est ce que les personnes croient. Je pense qu'il y a beaucoup d'universitaires qui en prennent et qui se dopent de ça pour réussir.
Et qui n'ont pas de troubles de l'attention.
Ouais, voilà, mais ces gens-là ne comprennent pas que pour nous, c'est une béquille et puis c'est pas drôle. Enfin, nous, on veut justement pas l'apprendre et que...
C'est trop de stress, ça, ce qui se passe là pour vous?
Oui, oui, clairement. C'est beaucoup de stress parce que je sais pas comment vous en parler, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre parce que la plupart des personnes ne comprennent pas. C'est dur. On se disperse beaucoup. Quand on doit faire quelque chose, on commence la tâche. Et quand on ne l'a pas fini, alors qu'on doit la finir, on fait une autre tâche. Et après, on oublie la tâche, la première tâche qu'on a commencée. Quand on est petit, on se fait engueuler, mais... Enfin, c'est pas de notre faute, on le fait pas exprès. Et les personnes, elles pensent qu'on le fait exprès, mais en fait, pas du tout. On m'invitait pas aux anniversaires ou on m'acceptait pas.
Aujourd'hui, vous avez pris de la Ritaline?
Non, aujourd'hui, j'ai pas pris. Parce que sinon, j'arriverais pas, je pense, à vous dévoiler toutes ces choses.
Valérie vous a pris la main pour qu'on continue à se parler, ça va mieux?
Oui. Oui, mais en fait, c'est pas facile à en parler parce que j'en parle jamais, du coup. Moi, je sais que je serai tout le temps comme ça et j'ai encore un bout de chemin à faire.
Donc, on avait un éléphant. Il n'est pas parti, il est toujours là. Est-ce que vous avez une idée de quelle est l'écriture juste de l'éléphant? Un éléphant avec PH? Avec un F ou avec deux F?
PH.
Celui qui est juste, c'est celui avec le PH. Alors maintenant, on a besoin de trouver une petite histoire pour se souvenir que l'éléphant, ça s'écrit avec PH.
Il a une queue frisée.
Il a une queue frisée.
Non.
Mais il y a... Non. PH.
Frisée.
Sauf que frisé, ça s'écrit avec F, ça va un peu nous embrouiller la tête. Hein.
Qu'il aimait bien regarder la télé sur un écran Philips.
Un éléphant à la queue frisée.
Redis.
Qui aimait bien regarder la télévision sur un écran Philips.
Redis. Ou bien un iPhone. PH, iPhone.
Et puis ça, c'est un des trucs qui est magique. Parce que la prochaine fois, je vous demanderai comment ça s'écrit éléphant. Vous allez vous souvenir de l'éléphant.
Vacarme.
C'est quoi déjà l'histoire de l'éléphant?
L'éléphant à la queue frisée aimait bien regarder la télé sur un écran Philips.
Ou un iPhone.
(0) 58 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Francine Delcozo. Vous souffrez vous aussi de TDAH, trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ou votre enfant en souffre? Comment se passe le quotidien de quelqu'un pour qui l'attention ne va pas de soi? Appelez-nous et laissez-nous votre message au numéro 058 236 236 0.
Vacarme, Laurence Di Félix, Véronique Marty, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Francine Delcozo et Rodolphe Beauchaud.
Demain, nous parlerons d'une technique qui a le vent en poupe et qui permet à tout un chacun, même les plus jeunes, de se concentrer en toutes circonstances.
En faisant les exercices, on aiguise l'attention. C'est simplement comme ça. La méthode aide donc à faire des choix ou diriger son attention. Et donc, il découvre que ce que c'est que manger une fraise quand on mange une fraise et ce que c'est qu'écouter une histoire quand on écoute une histoire. Ça, c'est la force de l'attention.
Comme des grenouilles ou la pratique de la méditation de pleine conscience, c'est pour demain entre 13h et 13h30 sur la première. Et ce soir, sachez que Vacarme sera au Club 44 à la Chaux-de-Fonds. Si vous voulez nous rencontrer, nous poser des questions, mieux